Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce dimanche 3 mai 2020 pour le partage de la parole de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons entamé une série de messages sur le thème « Comme un vase ». Le premier message que nous avons partagé la semaine dernière faisait le parallèle entre le livre des Juges, chapitre 7, versets 19 et 20, avec Gédéon, et la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Dans cette idée de la lumière qui doit briller dans nos cœurs, nous avions vu le parallèle entre l'œuvre à laquelle Dieu avait appelé Gédéon, cette œuvre de salut, cette œuvre de délivrance pour le peuple, la manière où Dieu lui avait donné à Gédéon d'entendre la réussite que Dieu avait déjà prévue pour lui, la manière où Dieu avait travaillé même le cœur de l'ennemi en le préparant déjà à cette défaite, puisque Dieu était avec Gédéon. Mais je dirais aussi la stratégie que Dieu a donnée à Gédéon avec ces lampes qui étaient cachées dans les cruches, dans les vases, et où il fallait briser ce vase. Mais on en a parlé de tout cela déjà la semaine dernière. Donc j'aimerais, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, vous pouvez écouter ce message, il est encore sur le site internet. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce message du dimanche dernier. Mais l'idée, encore aujourd'hui, que je voudrais développer avec vous, c'est cette pensée de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 et 7, où Dieu dit « La lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » J'aimerais continuer dans cette réflexion qui nous amène dans cette méditation de la parole de Dieu quant au fait de reconnaître que nous sommes que des vases, mais des vases qui ont besoin aussi de se laisser remplir. Et d'ailleurs, c'est un peu la suite aujourd'hui, comme un vase qu'il est temps de remplir. Je vous invite à faire plusieurs lectures avec moi dans le livre des Actes. Et la première lecture, ça sera dans Actes chapitre 1, les versets 1 au verset 14. Actes chapitre 1, verset 1 au verset 14. Pour rendre les choses le plus simple possible, j'ai choisi le plus grand nombre des textes. Nous resterons dans le livre des Actes, donc n'hésitez pas à suivre avec votre Bible ou à noter les références et à les reprendre après de manière personnelle. Mais nous resterons de manière assez présente sur le livre des Actes. Actes chapitre 1, versets 1 à 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres. Par le Saint-Esprit aux prophètes qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont il leur a dit « Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Et donc, réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait, et Inué le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est auprès de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Dans cette première lecture du livre des Actes, nous nous retrouvons dans ce moment où, en réalité, après le sacrifice de Jésus à la croix, après ce moment où les disciples se sont retrouvés dans une confusion liés à leur propre réflexion, à leur propre sentiment, puisque Jésus leur avait annoncé ces choses qui devaient se produire. Et les choses se sont produites de la manière où Jésus l'avait annoncé. Les disciples se sont sentis complètement au dépourvu, se sont ressentis vides, je dirais même vidés, de tout sens, alors que pendant 3 ans, ils avaient suivi Jésus, là d'un coup, c'était le vide total. Jésus n'était plus avec eux. Jésus n'était plus là. Jésus avait été mis à la croix. Toutes ces espérances qu'ils avaient placées en Jésus pour eux, à quelque part, tout était perdu. Tout était terminé. Et nous le voyons dans leur manière de fonctionner, dans leur manière d'agir. Certains vont reprendre le chemin pour rentrer chez eux, d'autres vont repartir à la pêche. Et pour eux, c'est on reprend notre ancienne vie. On revient à notre vieille vie, notre vieille manière de vivre, nos vieilles habitudes. On revient à ce qu'on connaissait. Il y a un vide. Et la nature ne supporte pas le vide. Elle a tendance toujours à le remplir de quelque chose. Alors, nous avons intérêt à nous laisser remplir de Dieu, parce que si c'est notre ancienne nature qui vient nous remplir, bonjour les dégâts. Cette ancienne nature, c'est celle que nous avons décidé d'abandonner en nous retrouvant face à Christ, face à l'annonce de la parole de Dieu, face au message de la croix, parce que nous avons reconnu que Christ est ce qui est le plus important dans notre vie et que c'est par Christ que nous recevons le salut, c'est par Christ que nous sommes pardonnés, libérés de cette ancienne nature, donc il n'est pas pour revenir en arrière. Si Christ a permis que notre cœur soit purifié, lavé, que tout ce qui souillait notre cœur, notre âme, n'était pas bon, c'est pas pour à nouveau laisser la place à cette ancienne nature, mais pour qu'il puisse nous remplir, lui, de quelque chose de meilleur, quelque chose de précieux. Et d'ailleurs, c'est à cela qu'il a invité les disciples. C'est à cela qu'il a travaillé le cœur des disciples. C'est pour cette raison qu'il est allé les rechercher, il est allé les ramener à nouveau, il a pris du temps à nouveau avec eux et il les a amenés à cette nécessité, premièrement, de quitter toutes leurs anciennes habitudes, leurs anciens raisonnements, leurs anciens, je dirais, modes de fonctionnement pour repartir sur des bases nouvelles. Chacun d'entre nous, nous avons la nécessité d'accepter de faire le vide dans notre cœur de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il n'est pas question d'en garder une petite partie, c'est question de faire du propre. Et du moment que nous acceptons de faire du propre dans notre vie, du moment que nous nous approchons de Dieu pour demander que notre vie soit sanctifiée, purifiée, lavée, que ce vase que nous sommes soit vidé de cette ancienne réalité attachée et ancrée dans le péché, nous devons rechercher et accepter d'être remplis par Dieu. Notre nouvelle naissance nous amène aussi à une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie ne peut pas s'inscrire dans nos anciennes habitudes. Il n'est pas question de revenir à nos anciennes habitudes. Il est question pour nous de vivre une vie nouvelle. Et la parole de Dieu nous parle des disciples qui se sont retrouvés dans cette chambre haute à attendre, finalement, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pourtant, ils avaient déjà marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils avaient bénéficié du message, de l'enseignement, de la doctrine, mais je dirais même, ils avaient bénéficié du ministère de Jésus en ayant vu des miracles, mais ils avaient besoin encore d'être remplis du Saint-Esprit. Et pour chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas seulement nous satisfaire de connaître la parole de Dieu, de la lire, de la méditer, c'est important. Mais on a besoin, et ce n'est pas une option, d'être rempli du Saint-Esprit, sans lequel, frères et sœurs, nous ne pouvons pas avancer dans notre vie spirituelle avec Dieu. Nous ne pouvons pas remplir le vase que nous sommes que de connaissances, voire même d'une vie intellectuelle. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est importante. La parole de Dieu est le fondement. La parole de Dieu est le centre, ainsi que tout ce qui en découle. Pas seulement de connaître la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique, de la vivre. De permettre que cette parole soit dans notre cœur et dans notre vie la base sur laquelle nous avançons et la base sur laquelle nous vivons. Néanmoins, si nous prenons que la parole et nous refusons l'Esprit, c'est une lettre morte. Elle ne pourra pas produire ce que Dieu désire produire dans notre cœur. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu agisse dans notre cœur, mais aussi que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous remplisse pleinement pour les œuvres auxquelles Dieu nous a appelés. On va continuer notre lecture, puisque j'espère que nous avons bien saisi la nécessité pour nous, qui sommes des vases, de dire Seigneur, remplis-moi. Au chapitre 2, versets 1 à 4, toujours du livre des Actes, Actes chapitre 2, versets 1 à 4, il nous est dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparèrent les unes des autres leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. On voit dans cette parole, dans ce texte, dans cette suite, que les disciples ont dû accepter le désir et la volonté de Dieu de les remplir. Et pour chacun d'entre nous, nous devons être aussi dans cette démarche de dire « Seigneur, je désire, j'accepte que tu me remplisses du Saint-Esprit. » Qu'on se comprenne bien, aucun homme peut en réalité prendre conscience qu'il a une relation privilégié avec Dieu à sa disposition, si ce n'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais cette œuvre qui s'accomplit et qui agit dans notre cœur pour nous amener à Christ, a besoin aussi de continuer à évoluer en nous laissant remplir de l'Esprit de Dieu. La conversion est un premier pas vers Dieu, important, nécessaire, dans lequel nous sommes appelés à cette repentance véritable, dans laquelle nous sommes appelés à abandonner notre ancienne vie, à nous consacrer, à nous donner à Dieu pleinement. Mais pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. D'ailleurs, les disciples seront invités par Jésus à ne pas quitter, à ne pas démarrer leur ministère tant qu'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, je dirais que le signe initial, puisque nous le voyons et nous le lisons dans ce texte, et nous le voyons aussi dans d'autres textes, il est question, le signe initial, c'est le parler en langue. Donc, le premier acte qui fut fondateur, en réalité, de cette nouvelle étape pour l'Église, fut la présence du Saint-Esprit dans les cœurs. Il nous a été donné un consolateur. Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Jésus n'avait pas enseigné et marché avec ses disciples pendant 3 ans pour qu'à un certain moment, un vide vienne s'installer dans leur cœur et que finalement, tout ce travail, tout ce renoncement à leur vie personnelle, leur décision de quitter leur travail, de quitter leur famille, se réduise à quelque chose de passager, de momentané. Mais dans le projet de Dieu, dans la volonté de Christ, c'était de continuer à œuvrer dans leur cœur et œuvrer avec eux et par eux. Et cette même volonté, elle est encore pour nous aujourd'hui. Dieu souhaite œuvrer en nous, pour nous, avec nous. Mais nous avons besoin, au même titre que les premiers disciples, au même titre que le démarrage de l'Église, nous aussi nous avons besoin encore aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui était réservé que au démarrage. C'est quelque chose qui fait partie et c'est une promesse que Dieu a donnée pour chacun d'entre nous. Un cœur rempli du Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure que la nature humaine n'aime pas. La nature n'aime pas le vide. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui remplit le cœur, qu'est-ce qui peut remplir le cœur ? J'ai pris 2 textes pour nous aider à mieux comprendre. Je suis resté comme je m'y suis engagé dans le livre des Actes. Donc je vous invite à tourner quelques pages et arriver à Actes chapitre 5, le verset 3. Actes chapitre 5, verset 3. Qu'est-ce que remplit un cœur s'il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu ? Malheureusement, c'est l'esprit du monde. Et on le voit en Actes chapitre 5, verset 3, Pierre qui va dire à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ ?» Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui remplit notre cœur, il y a autre chose qui vient de prendre place, l'esprit de ce monde. Un exemple par le mensonge, puisque le texte le dit clairement. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de ? En effet, le mensonge était une conséquence de ce qui remplissait le cœur d'Ananias. N'était que le fruit de ce qui avait malheureusement pris place dans le cœur d'Ananias, puisqu'Ananias ne s'était pas laissé remplir par l'Esprit de Dieu. Un autre exemple, Actes chapitre 13, à partir du verset 44. Actes 13, à partir du verset 44. Ananias, on a vu le mensonge. Là, on voit aussi d'autres comportements, la jalousie, l'opposition. La parole de Dieu nous dit, le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et il contredisait avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement : C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous ne jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier. Mais les Juifs excitèrent contre eux les femmes distinguées qui étaient prosélytes et les notables de la ville, et ils soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et ils allèrent à Iconium. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. On voit dans ce texte, encore une fois, cette situation d'un cœur qui doit, à un certain moment, faire un choix. Rempli par Dieu, rempli par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli de la joie qui donne le Saint-Esprit, rempli d'un désir d'annoncer la parole de Dieu, de la proclamer même dans les territoires éloignés, de décider de servir Dieu en toutes circonstances, d'être prêt aussi à accepter, d'être persécuté, d'être confronté à des personnes qui n'ont pas cette même volonté, ce même désir de marcher avec Dieu. Et malheureusement, de l'autre côté, des hommes qui vivaient sous une forme de religiosité, remplis de jalousie à cause de la réussite du message. Parce que je vous rappelle que ce qui, en réalité, doit être relevé, c'est que la parole de Dieu était annoncée, que cette parole attirait les foules. Ce n'était pas Paul ou Barnabas, ce n'était pas des stars. Aujourd'hui, beaucoup se présentent comme des stars, pour prêcher, pour parler, c'est des noms qui évoquent, c'est des têtes d'affiche, mais ce n'est pas ça. Paul ne voulait pas, et Barnabas non plus, être une tête d'affiche. Il ne cherchait pas à une reconnaissance humaine, non. Ce qui attirait les foules, ce qui attirait les cœurs, c'était, et ça doit être encore aujourd'hui, la parole de Dieu. Et quand cette parole, elle agit dans les cœurs, forcément elle amène à une transformation. Mais ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu se rattachent et restent enracinés dans des comportements qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. La religiosité n'a rien à voir avec l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Dieu ne nous appelle pas de la religiosité, mais il nous appelle à la foi vivante, fervente, agissante et persévérante dans sa parole et dans l'action que Dieu a prévue et préparée d'avance et qu'il accomplit dans nos cœurs et par nous dans le Saint-Esprit. Mais mettons de côté ce que peut continuer de manière négative à remplir les cœurs. Ce n'est pas sur cela que je voudrais m'arrêter ce matin, mais surtout nous engager et nous amener à cette réflexion et ce désir pour chacun d'avoir un cœur rempli de l'Esprit de Dieu. On va faire une autre lecture, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 4, à partir du verset 8. Actes chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce qu'il fait l'Esprit de Dieu quand il remplit le cœur ? Alors nous l'avons vu tout à l'heure, action, être rempli du Saint-Esprit. Premier acte qui confirme cette œuvre de l'Esprit, cette présence du Saint-Esprit dans les cœurs, parler en langue. Et il y eut ce jour-là, le jour de la Pentecôte, par l'annonce dans ces langues, l'annonce de l'Évangile dans des langues que d'autres ont pu entendre, ont pu être touchés. Et d'ailleurs, ce jour-là, il y a eu des milliers de conversions. Donc le but, ce n'est pas d'attirer le regard sur les hommes, mais d'attirer les cœurs vers Christ, toujours. Actes chapitre 4, à partir du verset 8, « Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, encore une fois, leur dit, chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. » C'est lui, en parlant de Jésus, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs. Elle est devenue la principale, celle d'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple, sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. En réalité, les chefs du peuple, les anciens, ont reconnu dans ces hommes, dans Pierre, et dans ceux qui étaient avec lui, les paroles, les propos, je dirais le cœur, l'esprit, qui était celui de Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Encore une fois, ce n'est pas les hommes qui étaient mis en avant, puisque c'était des hommes un peu plus ordinaires. Pierre ne savait ni lire ni écrire. C'était des hommes qui avaient l'habitude de vivre du travail de leurs mains. Il était pêcheur. Il savait comment jeter un filet. Il savait comment diriger un bateau. Il savait toutes ces choses qui étaient attachées au métier qui lui avait été appris par son père. Mais il était loin d'être un conférencier. Il était loin d'être un prédicateur, je dirais, avec une éloquence telle que peut-être ces hommes avaient l'habitude d'entendre. Mais ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas les capacités, ce n'est pas les titres d'études que Dieu avait choisis, mais Dieu avait choisi des hommes qui avaient un cœur prêt et apte à se laisser remplir du Saint-Esprit. Et encore aujourd'hui, Dieu cherche des cœurs prêts à se laisser remplir du Saint-Esprit, des cœurs désireux de recevoir, d'expérimenter et de vivre la vie de l'Esprit. Et c'est parce que le Saint-Esprit était en eux qu'en effet on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Ils annonçaient avec assurance et puissance. Actes chapitre 7, à partir du verset 55, on va lire le verset 55 et 56, Actes chapitre 7. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ses yeux sont fixés sur Dieu. D'ailleurs, c'est le cas d'Étienne. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu en Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les yeux ouverts et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. » Être rempli du Saint-Esprit, c'est garder aussi les yeux, sur Dieu en toutes circonstances. Facile et difficile. Et je dirais davantage dans les moments difficiles. Garder les yeux sur Dieu nous permet en réalité de faire face aux épreuves et face aux difficultés. Le fait de rester ancré dans la parole de Dieu nous conduit et nous permet de servir Dieu d'une manière efficace. Actes chapitre 9, verset 17. Actes chapitre 9, verset 17. Il nous dit, Ananias partit Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Ananias est un homme simple, mais au service de Dieu. Et Dieu lui demande d'aller prier pour Saul, un homme qui était connu et reconnu pour être un persécuteur des chrétiens. Quelqu'un qui allait chercher des hommes et des femmes qui avaient cru en Jésus pour les amener prisonniers et pour qu'ils soient mis devant la justice, voire même lapidés, puisque dans le cas d'Étienne, Saul de Tarse était présent et y tenait les habits de ceux qui étaient en train de lapider Étienne. Mais Dieu a changé le cœur de Saul. Dieu a ouvert les yeux de Saul. Saul était un homme qui était ancré dans la loi, ancré dans la parole, mais il lui manquait la révélation, il lui manquait l'esprit. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction. Saul était un religieux, pas plus que ça. Certes, il avait la connaissance. Certes, il avait grandi au pied de Gamaliel, un souverain sacrificateur, un homme qui avait une connaissance de la loi de Dieu. Et Saul avait été au bénéfice de cet enseignement. Il l'exprimera plus loin dans les écrits en disant combien il observait la loi, combien il était attentif à respecter, à vivre cette loi pleinement. Mais il lui manquait quelque chose. D'ailleurs, tout homme, toute femme pourrait avoir bien de la connaissance, bien des capacités. Mais s'il n'est pas rempli de l'Esprit Saint, il lui manque l'essentiel. Et Ananias viendra prier pour lui. Et Saul de Tarse sera à ce moment-là, après ce moment de prière, guéri, puisque il y avait comme des écailles qui couvraient ses yeux. Un message et une guérison, une délivrance, je dirais, physique. Il a été guéri de cette cécité, mais en même temps spirituelle, puisqu'il avait besoin de recevoir la révélation de Christ et être rempli du Saint-Esprit. Cette même plénitude, cette même action du Saint-Esprit qui amènera aussi Paul à être capable, par le Saint-Esprit, de discerner les ruses de l'ennemi et à faire un bon usage de l'autorité qui vient, qui découle de la vie de l'Esprit en nous, de la vie de Dieu en nous. Actes chapitre 13, à partir du verset 9 au verset 12, nous pouvons lire ensemble. Actes 13, versets 9 à 12. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit : Toi, qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et se tourna, çà et là, en cherchant des gens pour le guider. Quand le préconsul vit ce qui était arrivé, il crut vivement frappé de la doctrine du Seigneur. Ce même Saul, ce même Paul, qui avait été par son passé un religieux, mais qui finalement avait été touché par la grâce de Dieu, qui avait entendu Christ parlait à son cœur, qui avait accepté Jésus en tant que fils de Dieu et qui avait saisi pleinement ce message, mais aussi cette action de l'Esprit de Dieu dans sa vie, qui avait compris que malgré tout ce qu'il pouvait avoir comme connaissance, il demeurait un vase qui avait besoin d'être rempli de l'Esprit Saint. Une fois que cette action de Dieu s'est accomplie dans sa vie, Saul sera dans une autre dimension de la vie spirituelle, puisque, on le voit dans ce texte, rempli d'Esprit Saint, rempli de cette action du Saint-Esprit, il a aussi discernement de l'Esprit, chose qu'il n'avait pas tant que le Saint-Esprit n'était pas dans son cœur, dans son âme, dans sa vie. Et d'autorité, puisqu'on voit avec quelle autorité il parlera. Et le fruit qui en découle. Puisque cet homme qui était là en opposition à l'évangile qui était prêché, avec ruse, puisque c'était une question d'argent derrière, il essayait toujours de garder un certain pouvoir et une autorité sur ce proconsul, sur ceux qui étaient autour de lui. Mais la lumière de Dieu vient briller dans les ténèbres. Et on revient au texte de 2 Corinthiens. Il est question pour nous de laisser la lumière de Christ briller. Et Paul ne fait rien d'autre que laisser cette lumière briller pour la gloire de Dieu, puisque les gens étaient vivement frappés de la doctrine du Seigneur, non pas de la doctrine de Paul, non pas de la doctrine de Jacques, de Jean ou qui que ce soit, de la doctrine du Seigneur. Nous avons besoin de la plénitude. Nous ne pouvons pas simplement nous arrêter à dire, voilà, avant j'étais un pécheur, maintenant le Seigneur a enlevé toute cette mauvaise partie de ma vie, le Seigneur a fait du propre dans mon cœur, le Seigneur, voilà, m'a transformé. Mais on a besoin aussi de plénitude de l'Esprit. Et je voudrais vraiment vous inviter ce matin et dans votre vie personnelle à rechercher la plénitude du Saint-Esprit, à rechercher le baptême du Saint-Esprit, à rechercher les dons de l'Esprit. Nous avons besoin de vivre cette plénitude. Accepter de nous laisser vider de notre ancienne vie. Accepter de nous laisser remplir de cette vie nouvelle en Christ. Reconnaître notre besoin et prier de tout notre cœur pour être rempli du Saint-Esprit. En Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 21, il y a une prière. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 21, il y a une prière qui est faite par l'apôtre Paul. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à vous approprier de cette prière. J'aimerais prier cela aussi pour vous. J'aimerais qu'on puisse le prier les uns pour les autres encore aujourd'hui. À l'exemple de ces paroles qui sont sorties de la bouche de l'apôtre Paul, de ce texte qui nous vient, mais qui était inspiré par l'Esprit de Dieu, puisque toute la Bible et inspiré de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul était conscient, mais nous devons être nous aussi conscients de la nécessité d'être remplis de la plénitude de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, rempli de l'amour de Dieu, rempli Mais ça doit être notre prière, notre demande, notre recherche, notre désir de dire « Seigneur, remplis-moi de toi ». Nous ne pourrons jamais obtenir ce que Dieu peut nous donner par nos propres forces. On ne pourra jamais combler le vide dans notre cœur par la connaissance, par les capacités, par l'instruction. Non, on a besoin, avant tout et en tout, le Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous fortifier. C'était la prière de l'apôtre Paul, il l'avait expérimenté, il l'avait réalisé. Nous aussi, nous avons besoin, chacun d'entre nous, de le réaliser, de le vivre, de l'expérimenter, de le partager. J'aimerais terminer avec une phrase que nous trouvons dans la lettre aux Romains, au chapitre 15, le verset 13. Romains, chapitre 15, verset 13. C'est avec cette phrase que j'aimerais terminer ce temps de méditation de ce matin. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, mais je vous invite vivement à prendre un temps de prière, à prendre un temps pour vous placer devant le Seigneur encore ce matin. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, demandez. Demandez à Dieu parce qu'il a promis. C'est une promesse qu'il nous a faite. C'est pour nous, c'est pour vous, aujourd'hui. Et si vous avez déjà été baptisé du Saint-Esprit, alors je vous invite à nouveau à dire « Seigneur, à nouveau, renouvelle mon cœur ». Il n'est pas question de vivre un nouveau baptême du Saint-Esprit, on est baptisé une fois pour toutes. Mais il est question pour nous d'être renouvelés dans notre vie de l'Esprit, renouvelés dans notre vision, être prêt à accepter que le Seigneur continue à travailler, qu'il déverse en nous sa pensée, sa volonté, sa miséricorde et son amour. Je vous invite, chacun d'entre vous, maintenant, et dans la suite de cette journée, dans la suite des jours, à demander et à vivre la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.